Et puis ça, ça vous permet aussi de repartir sur autre chose et que ce coup d'arrêt soit l'occasion de créer de nouvelles horizons et de pouvoir se projeter dans d'autres futurs. Et je trouve que c'est aussi ce que l'épreuve nous amène. L'épreuve nous grandit, elle nous propose d'autres options, elle nous impose même d'autres options, et ça n'est pas plus mal. Merci Magdalène pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On peut vous retrouver sur Instagram en tapant Mag, alors M-A-2-G, et puis Y-B-E, comme Maybe, mais là ça fait Magby, avec 2-G, Magby sur Internet, M-A-2-G-Y-B-E. Il n'y a pas de point entre les deux, hein ?
Non, je crois qu'il y a un tiré du 6
quelque part. Un tiré du 6, mais... ouais, parce qu'on me l'a souligné, donc il a été avalé. Mais en tout cas, vous la trouverez facilement. Merci mille fois, et puis bon vent à vous.
Merci.
Cher ami, au revoir.
Oui. Au revoir. Bonne nuit à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
23h sur Europe 1. Tour de l'info avec vous, Manessa Ali, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Il regrette que la vie privée et familiale de Kenji Girac ait été dévoilée au grand public. Réaction des managers du chanteur après la conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan cet après-midi. Le magistrat a longuement détaillé les circonstances du tir qui a blessé l'artiste au thorax dans la nuit de dimanche à lundi. Les problèmes d'alcool et de drogue du vainqueur de l'émission de The Voice ont alors été évoqués. Concernant l'enquête, la piste du tir accidentel rapportée dans un premier temps par Kenji Girac est écarté. Selon les éléments recueillis, le chanteur est rentré ivre dans sa caravane la nuit du tir. Sa compagne l'a alors réprimandé avant de menacer de le quitter. Face à cette situation, l'artiste assure avoir pris peur. Il s'est alors emparé d'un pistolet pour simuler un suicide sans vérifier si l'arme était chargée. Ce soir, il est toujours hospitalisé. Il devrait mettre plusieurs mois à retrouver la pleine possession de ses moyens, selon le procureur. Il envisageait de commettre une tuerie de masse sans connotation religieuse. Un adolescent de 16 ans est mis en examen et écroué. Le suspect de nationalité turque présente des troubles psychiatriques et avait fait part de ses intentions meurtrières à un professionnel de santé en février dernier. Une hospitalisation d'office avait alors été ordonnée. Lors d'une perquisition menée au domicile de l'adolescent, des croix gammées ont été découvertes sur les murs de sa chambre. Le chef de l'État a pris le parti d'intervenir personnellement dans la campagne et devra en assumer les conséquences en cas de désaveu. Les propos de Jordan Bardella après le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne. Le président du RN qualifie le président de la République de porte-parole de la tête de liste Renaissance pour les élections européennes, Valérie Ayé, tant il s'immisce dans la campagne. Durant sa prise de parole qui a duré pratiquement 2 heures, Emmanuel Macron a appelé au sursaut de l'Europe face aux nombreux dangers qui la guettent. Un groupe de victimes d'Harvey Weinstein dénonce une décision démoralisante et profondément injuste. La condamnation à 23 ans de prison de l'ancien producteur star d'Hollywood vient d'être annulée par la Cour d'appel de New York en raison d'erreurs de procédure durant le procès en 2020. Le cinéaste accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs dizaines de femmes sera donc rejugé. Il reste pour le moment en prison car il a été condamné dans un autre procès à Los Angeles l'année dernière. Jusqu'à 2 500 € de primes pour les conducteurs de métro et de RER mobilisés durant les JO. Un accord est signé entre les syndicats majoritaires et la direction de la RATP. Pour toucher ce montant, les agents ne devront pas s'absenter plus de 4 jours entre le 22 juillet et le 8 septembre prochain. Dans le cas contraire, la prime s'élèvera tout de même à 1 600 €.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau. Veux-tu le faire aussi?
C'est ma prière.
Et puis il y a 49 ans, jour pour jour, Mike Brandt mourait à l'âge de 28 ans seulement. Vous connaissez certainement l'histoire de cette journée tragique du 25 avril 1975. L'artiste est tombé du 6e étage d'un immeuble parisien dans des circonstances encore mystérieuses aujourd'hui. Le drame a eu lieu le jour de la sortie de son nouveau disque. Parmi les nombreux succès de Mike Brandt, cette petite compilation confectionnée par Laurent Pelé.
Et soudain, je rien que l'âme en aveu.
Voyons, on passe au niveau supérieur, Olivier. Maintenant, on a des compilations.
Oui, non mais ça travaille ici.
C'est vrai que ça travaille. Réalisation de Laurent Pelé.
Merci, Laurent. Et quel âge avait Mike Brandt quand
28 ans.
Voilà. Vous voyez, c'est cette génération de 27 ans. Quel âge a Kenji
27
ans. Cet âge paraît...
Kenji n'est pas décédé.
Non, mais j'évoquais tout à l'heure avec... Magdalene, notre première témoin, la difficulté pour... parce que j'ai tourné avec Rose, la chanteuse, ouais, qui m'expliquait que le succès, comme ça, le regard d'un public énorme, hein, d'un seul coup, parce que avec son tube, la liste, elle a totalement explosé à 27 ans. Et on a Amy Winehouse, on a Jim Morrison, on a de 27 ans, on a Kurt Cobain, on a tout un panel d'artistes de cet âge-là, Janis Joplin aussi, qui prenait de la drogue énormément, buvait beaucoup d'alcool, brûlait la vie à 200 à l'heure, et finalement on s'aperçoit que le succès est parfois un cadeau empoisonné et que c'est extrêmement compliqué pour ces jeunes gens à gérer.
Bien sûr.
Qu'est-ce que fait Kenji dans une caravane ivre-mort avec un pistolet? Normalement, on imagine, nous qui sommes dans le public. Alors, vous et moi, nous sommes un peu introduits de par nos métiers, mais le grand public pense que ces personnes qui gagnent de l'argent, qui se produisent devant des centaines de milliers de personnes, qui vendent des disques, qui n'ont pas de problème, mais finalement, si. On voit que la nature humaine n'est pas si évidente que ça et qu'elle est complexe.
Bien sûr,
en fait.
Et Mike Brandt, si on parle de lui, puisque c'est aujourd'hui qu'on commémore les 49 ans de sa mort, il avait déjà fait une tentative de suicide quelques années avant cette mystérieuse chute qui n'a, jamais été en fait expliquée.
Il avait déjà tenté de sauter par la fenêtre.
Voilà, mais il avait déjà fait une tentative de suicide avérée quelques années avant.
Oui. Donc on voit ça. Et vous noterez que. Vous ne nous l'avez pas dit, donc je vous le dis, vous noterez qu'au soir des premières nouvelles sur Kenji, je vous avais dit, on nous raconte n'importe quoi, vous vous souvenez ?
C'est vrai.
C'était certain qu'il y avait quelque chose de pas net dans cette histoire. Alors, je noterai, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je trouve que les managers de ce chanteur réagissent extrêmement bien, parce que je ne vois pas au nom de quoi ce procureur
très étonnant
révèle les détails très intimes de la vie privée de ce garçon.
C'est très très étonnant, c'est la réaction, pour tout vous dire, qu'on a eu aussi à la rédaction d'Europe 1 en écoutant cette conférence de presse, déjà une conférence de presse extrêmement longue. Quand les conférences de presse de procureurs, généralement, ne dépassent pas les 20 minutes, quand ils prennent des questions, ça peut être encore plus court. Et là, c'est vrai qu'on a, alors je crois que c'est un peu plus d'une heure, pendant un peu plus d'une heure, un procureur de la République va détailler la soirée, la journée, finalement, l'étape psychologique de Kenji Girac. Et ça n'a rien à voir avec l'enquête, dans le sens où il n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails. Par exemple, il était en état d'ivresse, il peut s'arrêter là. Il n'est pas obligé de dire qu'il a des problèmes d'alcool depuis des jours ou des semaines. Voilà, c'est assez étonnant.
Et on a des procureurs qui aiment bien se faire mousser, qui aiment bien les caméras, et qui aiment bien se voir dans les journaux, en photo ou à la télé. Et je pense que ce procureur de Bordeaux est dans ce cas, parce que je ne vois pas en quoi son rôle, il a totalement outrepassé son rôle. Et je trouve ça scandaleux, franchement. Et surtout dans une situation où on a une fragilité avérée. Je ne pense pas que désormais, cela va aider ce garçon à remonter la pente, parce que tout son public va maintenant lui parler de « ça va mieux, tu bois plus, t'es plus triste, t'as plus envie de te tuer ». Voilà le futur de Kenji, pour les mois qui viennent. Bravo, monsieur le procureur de Bordeaux.
Et le chanteur Vianney a d'ailleurs souligné cette pipolisation du procureur de la République, si on peut dire, qui a décidé comme ça de révéler la vie privée de Kenji. Il l'a soutenu sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut se pencher, parce que c'était vraiment très étonnant la façon dont le procureur de Bordeaux a révélé les éléments aujourd'hui.
D'accord. Bah écoutez, on sera attentif à la suite des événements, parce que peut-être va-t-il porter plainte.
On verra.
Il est peut-être dans ses droits. Voilà, merci Maëlle. On se retrouve à minuit. Et peut-être... Non, pas de surprise à minuit, une petite.
Oh, peut-être.
Peut-être.
Ouais, ça vous fait plaisir.
Allez.
Faisons ça.
Allez, à tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Heures passées de 13 minutes, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien, je l'espère en tout cas. Vous êtes sur la libre antenne, chers amis, et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer, vous le savez, 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé d'Europe 1, et bien évidemment, j'espère pouvoir échanger avec vous tout à l'heure. Clap, l'émission qui raconte le cinéma aux auditeurs d'Europe 1. Eh bien, c'est chaque samedi de 19h à 20h. Laurie Cholewa en compagnie d'invités exceptionnels passe en revue toute l'actualité du cinéma et des sorties de la semaine. Ce samedi, elle reçoit Artus pour son film Un petit truc en plus, qui sortira mercredi prochain, c'est-à-dire le mercredi 1er mai. Le mercredi 1er mai, un jour qui compte pour tous les travailleurs, mais un jour qui comptera plus que jamais pour moi et pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Car comme vous le savez, le Paris Saint-Germain se rendra à Dortmund pour le match aller des demi-finales de Champions League, et nous serons ce jour-là extrêmement tendus, nous tous, les Parisiens. Et on commence déjà à faire quelques prières. 23h14, nous accueillons maintenant Estelle sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Estelle.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où m'appelez-vous Estelle et quel âge avez-vous ?
J'ai 40 ans.
D'accord. Et vous m'appelez de ?
Du Pas-de-Calais 62.
Du Pas-de-Calais 62, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi.
Eh bien, j'ai ma fille qui a été placée en famille d'accueil. Elle a 12 ans, placée en famille d'accueil à Tours. Et mon fils, il a 7 ans, il est placé en famille d'accueil dans la Sarthe.
D'accord. Alors, elles ont, vos enfants ont été placés il y a combien de temps maintenant ?
Pardon ?
Vos enfants ont été placés il y a combien de temps ?
Alors, ma fille, elle est placée depuis 12 ans et mon fils depuis 7 ans.
Ah, vos enfants sont placés depuis 12 ans et depuis 7 ans. D'accord, je n'avais pas compris. Ils vous ont donc été enlevés à la naissance ?
Oui.
D'accord. Pourquoi, en fait, vous voulez me raconter ce qui s'est passé ?
Ben, en fait, à l'époque, quand j'ai vécu avec mon ex 7 ans avec, quand ma fille était encore mouvante, j'étais encore avec mon ex à l'époque. Donc, oui. Avant que ma fille elle est placée, j'ai subi des violences conjugales. En fait, mon ex, il a fait que de boire, de fumer, de faire inviter ses copains à la maison.
Oui.
Donc, j'ai beau lui donner des conseils, de tout
essayer
ça pour
de
raisonner.
Calmer. Oui.
Et il n'a pas écouté, il n'en fait qu'à sa tête. En plus, il est tombé dans la drogue.
D'accord.
Il y a eu aussi des dépôts de plainte qui ont été faits à son encontre. Il avait agressé une assistante sociale pas trop loin d'où ma fille allait placer. Il y a eu des problèmes avec l'argent de la mairie, et il y a eu des problèmes avec les voisinages et avec ses propres amis aux alentours.
D'accord, il était violent donc.
Oui.
Bon. Il a toujours été comme ça, cet homme-là, ou quand vous l'avez rencontré, il n'était pas comme ça ?
Au début, non, ça s'est bien passé, tout allait bien, mais depuis après, au fur du temps, il a fréquenté des personnes qui l'ont mis dans la drogue, dans l'alcool, et il était quasiment presque jamais à la maison, en plus. Et avant que ma fille venue au monde, et mon ex, quand j'étais avec, il m'a même pas aidé pour... il m'a pas aidé, la plupart n'étaient jamais là, il était parti dans les fêtes, il m'a pas aidé pour...
Oui, pour vous aider durant la grossesse, quoi. Il vous laissait seule.
Oui.
D'accord. Vous deviez être malheureuse, non ?
Au début, non, mais après, au moment qu'il commençait dans l'alcool, dans la drogue, puis qu'il n'était jamais là pour moi, oui, après, c'est à ce moment-là.
Vous aviez quel âge à ce moment-là, lorsque vous étiez enceinte de votre fille ?
25 ans.
25 ans, d'accord. Bon, et donc du coup, en fait, avec toutes ces bêtises, je suppose que vous avez attiré le regard des services sociaux.
Oui, par rapport à ça, ma fille est placée.
Elle a été placée d'entrée, donc vous avez accouché et on vous l'a enlevée à l'hôpital ?
Oui.
Ok. Après, il y a votre garçon. Votre garçon vous a enlevé dans les mêmes conditions. C'est le même père avec le garçon ?
Oui.
D'accord. Vous êtes donc resté avec cet homme ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a fait rester, en fait, Stella ?
C'est compliqué à répondre.
Oui.
Et depuis me séparer avec lui ?
Depuis que vous êtes séparés, d'accord.
Depuis que je me suis séparée avec ce monsieur-là, ouais. Après, il y avait une retour en situation. Tout est à mon encontre.
Tout est à votre encontre, c'est-à-dire on vous a tout mis sur le dos, c'est ça ? Tout est votre faute ?
Oui.
C'est-à-dire, qui vous a mis ça sur le dos ?
Les services sociaux.
Ah. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les services sociaux ? Dites-moi.
Alors souvent, je me fais reprocher, depuis 12 ans, je me fais reprocher que je suis une mère dangereuse, une mère incapable, je ne sais pas gérer mon enfant, je ne sais pas parler aux enfants, plein de négatifs.
D'accord. Mais qui vous dit ça, la personne qui s'occupe des enfants ? Parce qu'ils sont placés, les enfants, aujourd'hui. Vous les voyez, les enfants, de temps en temps ?
Non, non, ma fille, je ne la vois plus du tout, mais à part mon fils que je le vois. Tous les deux mois.
Tous les deux mois, vous le voyez pendant combien de temps ?
Tous les deux mois, une heure depuis 7 ans.
Une heure depuis 7 ans, tous les deux mois. On se demande, là, encore, en vous écoutant, Estelle, à quoi sert une heure entre une mère et son enfant ? une fois tous les deux mois. C'est, je suppose que pour vous, ça doit être un arrache-cœur total.
Oui, je suis blessée, détruite.
Oui. Vous allez le voir où, là-bas, à Tours ?
Alors, tous les matins, dans le Pas-de-Calais, je me lève à 2h du matin.
Oui.
Et en voiture, je décolle à 4h pour faire un aller 460 km et plus un retour 460 km.
D'accord. Et vous ne le voyez qu'une heure ?
Oui.
Le père, finalement, a laissé tomber ses deux enfants. Lui, il ne demande plus rien ou il est toujours dans le circuit ?
Il a plus de droits. Le père, il a plus de droits pour sa fille.
Comment ça se fait qu'il a plus de droits ? Comment ça se fait ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Mm-hmm. Je ne sais pas.
Il y a eu des jugements dernièrement ? Il la voit, sa fille ?
Oui.
Il la voit en visite médiatisée, comme vous ?
Non médiatisée et parfois à l'extérieur aussi.
D'accord. Alors que lui, en fait, a un casier judiciaire, donc si je comprends bien...
Oui.
Il a été condamné, il a fait de la prison ou pas ?
Mais normalement, il devrait le faire, mais après, je sais pas après.
Et est-ce que pour la drogue et tout ça, il a été attrapé ?
Je sais qu'il a fait des gardes à vue, je sais qu'il y a eu des plaintes, mais après je suis pas au courant si depuis il a fait de la prison, je sais pas.
D'accord. Vous voudriez quoi, vous, Estelle ?
Je voudrais voir mon fils plus longtemps, c'est-à-dire 2 heures de visite au lieu d'une heure et à l'extérieur.
Oui. Vous voudriez essayer de reconstruire. Comment ça se passe avec votre fils quand vous allez le voir ?
Ça se passe super bien.
Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? Parce qu'il a 7 ans aujourd'hui, c'est ça ?
Oui.
Il vous dit quoi ? Il aurait envie de revenir à la maison ?
Oui, c'est ce qu'il souhaite.
C'est ce qu'il souhaite. Et est-ce que vous avez un avocat qui s'occupe de vous ?
J'en avais un qui m'a défendu en 2000, pour 2019, après une fausse procédure.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit, cet avocat ? Il vous a dit que vous deviez continuer à vous battre ou que ça serait compliqué de récupérer les enfants ?
Que je dois continuer à me battre.
D'accord. Y a un jugement bientôt ou y a une audience bientôt ? Est-ce que vous préparez quelque chose pour... Vous faites des demandes, je suppose.
Oui, je fais beaucoup de demandes, oui.
Et alors, ça se passe comment ? Vous répond quoi ?
Au moment, il n'y a pas d'aboutissement.
Ça ne bouge pas du tout ?
Non.
Et en ce moment, il y a un avocat qui s'occupe de vous ?
Plus maintenant.
Plus maintenant, du tout ?
Non.
Bon, mais il va falloir que vous en repreniez un, hein, Estelle, hein. Parce que toute seule, vous allez avoir du mal à vous en sortir, en tout cas à faire avancer les choses, vous savez. S'il n'y a pas quelqu'un qui monte un dossier, qui vous aide à monter un dossier, ça va être très compliqué.
Oui.
Ben oui. Parce que toute seule, en plus je ne comprends pas pourquoi votre ex a plus de droits que vous. Est-ce qu'il a raconté des choses négatives sur vous ? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui existe dans le dossier ?
C'est bien possible, oui. Il y a eu beaucoup de choses qui font que maintenant, c'est moi qui paye cher,
ouais.
Après d'être séparé avec.
Ouais. Mais vous avez quitté cet homme il y a combien de temps ?
En 2016.
D'accord.
Début d'année 2007.
D'accord. Et lui, il a fait des démarches pour voir ses enfants, quand même.
Il a fait des demandes plus pour sa fille, mais pour son fils qui a abandonné.
Son fils, il l'a abandonné, vous dites ?
Oui.
Pourquoi ? Pourquoi il ne veut pas voir son fils ?
Et c'est compliqué parce que il préfère plus. C'est plus sa fille qui voulait, en fait, son fils, il voulait pas.
D'accord. Écoutez, le conseil que je vous donne, Estelle, hein, c'est de prendre un avocat et de vraiment essayer de commencer à travailler avec lui pour formuler vos demandes, parce que toute seule, vous n'y arriverez pas.
Et de plus, j'ai la juge qui me suit mon dossier, elle est beaucoup plus souvent dans le sens de l'ASE.
Mais ça, c'est en règle générale, vous savez, les juges, elles suivent les rapports de l'ASE. Hein. Quel rapport vous entretenez avec, l'éducatrice ou l'éducateur de l'ASE? Vous le voyez un peu? Vous échangez avec lui?
Avec l'éducatrice?
Oui.
Au début, tout va très bien, mais en ce moment, ça passe moins en moins.
D'accord, vous la voyez régulièrement?
Tous les deux mois.
Pareil, quand vous allez voir votre fils, en fait, vous la voyez?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça passe de moins en moins?
C'est parce que en ce moment, je commence à avoir marre que ça fait depuis 2022 que je renvoie des courriers à la juge et que j'explique à l'ASE s'il est possible de s'arranger avec la juge pour que je puisse voir mon fils de deux heures au lieu de une heure.
Ben oui, ouais.
Mais non, mais ils ne veulent pas, c'est refusé.
Ils ne veulent pas, ils vous refusent. Et est-ce qu'ils ils motivent leur réponse? Est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi?
Non, je reçois des... Non, c'est tout le temps ignoré, mais par contre, je reçois, comme je dis, 11 avril, j'ai reçu... Une rejet de demande encore.
Un rejet de demande, d'accord. Non, mais vous savez, il faut que vous vous fassiez aider. Hein. Alors, là, moi, je vous donne le conseil suivant, c'est de reprendre un avocat. Et puis, Florian va vous donner un numéro de téléphone. Vous pourrez l'appeler de ma part pour qu'on vous donne quelques conseils. C'est une association, mais qui est très bien. Et vous appelez ce numéro de ma part. Florian, vous ne raccrochez pas, donc Florian va vous donner le numéro. Et ils vont vous conseiller, c'est vraiment leur spécialité de conseiller les mamans ou les papas comme vous qui sont dans la problématique que vous traversez depuis de nombreuses années. Hein? Donc oui. Vous ne raccrochez pas et puis oui. Florian va vous donner le numéro, ok?
D'accord.
N'hésitez pas à nous tenir au courant en tout cas, Estelle, d'accord?
D'accord.
Courage à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
So far away from
seul coup on t'a pris de vie.
Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away.
Nicolas Perrac sur Europe 1, sur la Libre Antenne, 23h32. Vous pouvez continuer à appeler à Europe 1, 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter. Pascal Pro, c'est deux rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord, l'heure des pros de 9h à 9h30 en co-diffusion avec CNews. Et puis ensuite, vous retrouvez Pascal de 11h à 13h pour vous donner la parole à vous qui aimez échanger avec Pascal Pro et qui évoquait avec lui toutes les problématiques sociétales, parce que, comme le dit Pascal, le plus important c'est vous et que votre parole est importante. Pascal Pro et vous, c'est de 11h à 13h, et bien évidemment l'heure des pros, une demi-heure chaque matin avant Thomas Hill et Culture Média. Pour participer à Pascal Pro et vous, vous pouvez appeler dès maintenant au 01 80 20 39 21. Et puis, bien évidemment, l'équipe de Pascal vous rappellera. Nous accueillons maintenant Victoria sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Olivier, vous m'entendez bien?
Ah mais je vous entends parfaitement bien. Et vous?
Parce que moi, écoutez, je suis désobéissante et j'ai mis un peu le haut-parleur parce que je n'entendais pas sans le haut-parleur.
Bah écoutez, ça va très bien. Là, ça ne nous gêne pas. Il n'y a pas de.
Alors, tout d'abord, je voudrais rendre je voudrais féliciter Florian pour son professionnalisme et puis son suivi pour les auditeurs qui l'appellent. Ensuite. Quant à vous, Olivier, que je ne connais pas, que je connais que par l'antenne parce que j'aime bien vous écouter, votre faculté d'écoute, votre humanité, votre bienveillance m'autorise à me libérer d'un fardeau. Tout d'abord, vous m'avez pas demandé où je résidais.
Non.
Vallée du Rhône, parce que je ne veux pas être précise dans ma
vie. D'accord, aucun problème.
Et vous comprendrez pourquoi je m'appelle Victoria, qui n'est pas mon prénom.
D'accord.
J'habite dans la vallée du Rhône et j'ai l'âge de Mike Brandt, justement. Quand j'ai fait le compte, 28 et 49, vous connaîtrez mon âge.
D'accord.
C'est une petite parenthèse.
D'accord.
Alors, donc, me libérer d'un fardeau qui m'accompagne, excusez-moi, je vais lire un petit peu parce que cet après-midi, j'ai posé des notes et pour être plus concise et pour pas m'éparpiller parce que j'aime bien parler, donc je vais lire quelques notes, d'accord?
Allez-y, je vous en prie.
Alors, ce fardeau qui m'accompagne depuis 40 ans, entendez-le bien, j'ai traversé l'enfer sans entrevoir la lumière. Peut-être que je ne la souhaitais pas. Ma vie a été un naufrage auquel j'ai participé, mais occasionné par une série d'abandons. Et je ne veux pas dévoiler ma vie, je ne veux pas scier de la sciure, c'est mon expression. J'ai été spectatrice et non actrice. Cette confession peut être un déclic pour les personnes souffrant de cet état de dépendance qui a été le mien. Donc voilà. Je me suis réfugiée dans l'alcool à partir de 35 ans. Tout d'abord, alcoolisme mondain, festif. Je dois vous avouer que j'ai vécu dans le paraître. Et encore maintenant, je ne sais pas si, Olivier, vous connaissez le petit livre « Le chevalier à l'armure rouillée ».
Non, je ne connais pas.
C'est très connu. C'est-à-dire que c'est le chevalier qui paraît et qui n'ose pas briser son armure.
Non, je ne connais pas, pardon.
Ouais, c'est très connu. Dans le milieu des psychiatres, des gens comme ça.
D'accord.
Parce que c'est mon cas. Ça l'est un peu moins maintenant. Et vous comprendrez pourquoi. J'ai toujours paru et je n'ai jamais été la personne en réalité que j'étais. Parce que depuis mon enfance, j'ai été élevée que par ma mère. J'ai été nourrie sans pension. J'ai fait absolument tout ce que j'ai voulu. Je me suis bazardée, alors que j'avais de grandes facilités. À 10 ans, je commandais tout. Enfin, après, je ne vous en parle pas. Bêtise sur bêtise. Bon. Alors, donc, j'ai vécu dans le paraître pour dissimuler mon mal-être.
Oui.
À 35 ans, je me suis retrouvée toute seule, abandonnée, 2 enfants. Je suis revenue dans ma région d'origine parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas dans cette région. Cette consommation a été d'abord épisodique. Puis, ces dernières années, depuis 10 ans, alcoolisme de solitude. Écoutez bien, personne dans mon entourage ne s'est aperçu de mon état. Personne. Je suis passée pour quelqu'un de... une super femme, nickel, impeccablement habillée, fort caractère.
Oui.
Voilà. Dans le paraître, uniquement.
Vous saviez bien dissimuler en même temps, visiblement.
Ah mais j'ai toujours été... Mais je n'ai fait que dissimuler toute ma vie. Depuis ma tendre enfance, je n'ai raconté que des mensonges.
D'accord.
J'ai été obligée. J'étais pas comme les autres. Je n'avais pas mon père. On m'a jamais rien dit. J'ai dit qu'il était en voyage, qu'il était mort. Je n'en passe des meilleurs. D'ailleurs, après, dans ma vie d'adulte, d'ailleurs, ça me poursuit encore. Hein. J'ai toujours cherché des hommes plus vieux que moi. Ça m'a amené dans des situations, je ne vous dis pas. Mais je me suis quand même mariée. Hein.
D'accord.
J'ai eu 2 enfants, mais enfin, un mariage de catastrophe. Enfin, qui s'est terminé il y a quand même longtemps. Donc, le tabac, je fumais beaucoup. J'ai arrêté il y a 10 ans. Je fumais 2 paquets par jour.
Comment est-ce que vous avez arrêté ?
Toute seule.
Super.
Et pourtant, j'étais dans un univers de tabac, hein, commerce de tabac. Pas moi, mais... Enfin bref, j'en dirai pas plus. 2 paquets de Dunhill mentholé par jour. Pendant 45 ans.
Ça fait pas mal.
J'ai arrêté en 2013, du jour au lendemain. D'ailleurs, mon paquet de cigarettes est toujours dans mon bureau avec le briquet.
D'accord.
Je n'ai jamais retouché. Et je vous assure, Olivier, je n'ai pas plus de volonté qu'une autre, sinon moins. J'en ai peut-être encore moins, parce que j'ai bazardé ma vie, j'ai rien fait de ma vie. Et maintenant, vous savez, je suis au bilan, parce que je suis au crépuscule de ma vie. Hein. Si vous avez compté les années, vous avez vu.
Oui, oui, il peut vous rester encore pas mal de temps quand même. Hein.
Ah non, 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 je ne pense pas.
Ah
parce
bon
que j'ai essayé quand même de me bazarder, hein, et j'y suis pas arrivée, parce que j'ai une forte constitution.
D'accord.
Non mais j'en rigole, mais boire comme j'ai bu, je devrais plus être là. Hein. Surtout pendant 40 ans. Hein. Donc le tabac, j'ai arrêté il y a 10 ans, et puis là... j'ai vécu avec quelqu'un qui était plus âgé que moi pendant 15 ans, une vie très agréable. Hein. Je suis allé dans les Caraïbes, alors là, le rhum coulait à flot, etc.
Ah oui, d'accord. Pendant combien de temps ?
Non, mais pendant les vacances. Hein.
Ah, pendant les vacances, d'accord.
Je suis revenu, j'ai bu tous les alcools qui puissent exister.
D'accord.
Parce que cette personne aimait la fête, recevait des amis. C'était quelqu'un que j'avais connu dans ma tendre jeunesse et que j'ai retrouvé. Et j'ai vécu 15 ans, mais qui avait 20 ans de plus que moi. Qui est mort maintenant. J'ai vécu une vie agréable. J'ai arrêté le travail que je faisais. Mais en réalité, je bricolais. Je ne faisais pas beaucoup de boulot. Parce que quand j'ai été mariée, mon mari m'avait fait arrêter de travailler. Donc, vous imaginez qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup de retraite. Mais je ne me plains pas là-dessus. Il y a des gens qui ont moins que moi.
D'accord.
Bon. Alors donc, j'ai vécu avec cette personne... pareil, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup recevoir, l'alcool coulait à flot. Il y avait un bar Lui seul s'est aperçu que je buvais. D'ailleurs, un jour, il me disait, un jour, les gendarmes vont t'arrêter, tu vas voir ce que tu veux. Mais enfin, il ne m'a jamais fait arrêter. Mais lui seul savait que je buvais. Personne ne le savait.
D'accord.
Bon, cette personne est morte et je suis revenue. J'ai repris un appartement. Et depuis 9 ans, je vis toute seule. Et depuis que je vis toute seule, j'ai plus de famille, hein, parce que j'en ai pratiquement jamais eu. J'ai jamais connu de grands-parents, aussi bien maternels que paternels, parce que quand je suis née, on a dit à ma mère qu'on voulait pas d'une bâtarde, donc je partais avec le handicap de bâtarde, et reconnu seulement 18 jours après ma naissance. Hein.
Ça fait toujours plaisir.
Ah oui, mais c'est la preuve. Vous savez, je veux dire, quand on n'a ou pas de père ou pas de mère, on est des enfants ratés. Excusez-moi pour les gens qui vont m'entendre, mais moi, j'ai été bancale toute ma vie à cause de ça. Voilà, c'était ma nature. Hein. Donc j'en suis... attendez, parce que là, j'ai... Voilà.
Alors, il venait d'où, cet alcoolisme, pour vous ? Ça sortait...
Il est venu, dans un premier temps, quand je vivais avec mon mari,
oui.
Dans des cocktails, des lunchs, tout ça.
D'accord.
Mais je buvais avec parcimonie, hein, et c'était épisodiquement. Et puis... Il m'est arrivé des tas d'ennuis dans ma vie. Mais alors, du temps d'ennuis. Et là, j'ai commencé, j'appréciais beaucoup le champagne, whisky et tout. J'ai bu tous les vins qui puissent exister, des bons vins. Hein. Mais après, j'ai pas pu me les payer. Mais là, j'en étais réduite ces 10 dernières années au whisky, uniquement. Voilà. Et je me privais. Hein. C'est-à-dire, une bouteille de whisky me faisait 2 jours.
C'est pas mal, hein, quand même. Hein.
Et attention, parce que je conduis, hein. Je faisais toujours attention, quand j'avais un rendez-vous, de le décaler. C'est-à-dire que quand j'avais un rendez-vous le matin, ou chez un médecin ou ailleurs, hein, je ne buvais pas la veille, je ne buvais pas le matin en partant, bien entendu, mais en arrivant à midi, c'était bon. Mais par contre, je ne buvais jamais le soir ni dans l'après-midi. Quand je ne sortais pas, je buvais le matin. Mais il me fallait une bouteille de whisky tous les 2 jours. Et là, j'ai commencé, puis des ennuis. Hein. Voilà, je suis passé à côté de... Je peux pas l'expliquer parce que je voudrais pas qu'on me reconnaisse. Mais là, ces 9-10 dernières années, d'abord, je vis dans un univers où j'aurais jamais dû vivre parce que je connaissais pas mal de monde. Comme il m'est arrivé des tas de bricoles, pas au sujet de l'alcool, hein, au sujet de famille, des histoires de famille. Parce que je suis quelqu'un de... Je suis une provocatrice. Mais vous savez, quand on est alcoolique, parce que maintenant j'ose prononcer ce mot, hein, alcoolique, mais jusqu'à il y a 3 mois, vous ne m'auriez pas fait dire que j'étais alcoolique.
Il y a 3 mois encore ?
Oui, au mois de décembre, j'ai passé Noël toute seule. J'avais du champagne dans mon frigo et tout. Bon, j'ai bu un petit peu. Et puis, à partir du début janvier, je me suis dit, à l'âge que tu as, si t'arrives quelque chose en voiture, si tu es malade, que tu es obligé d'aller à l'hôpital, qu'on te fait des prises de sang, mais ma pauvre fille, la femme que tu représentes, mais je me suis dégoûtée.
Oui.
Mais dégoûtée. Je me regardais même plus dans la glace. Je me regardais si, parce que je me suis jamais laissée aller. Attention, hein, je sortais dans la rue, les gens devaient se dire, mais elle n'a aucun problème, cette femme.
D'accord.
Et puis, le 15 janvier, il restait du whisky, du Porto dans mon frigo. J'ai dit, c'est fini. Je me suis arrêté de fumer le 1er octobre 2013. Là, 15 janvier 2024, j'ai dit, terminé. Je l'ai écrit sur mon agenda. J'ai dit, à partir de ce jour, Victoria, c'est pas mon prénom, tu seras abstinente.
D'accord. Et vous êtes parvenue.
Eh bien, je peux vous dire que j'ai été malade. J'ai rien dit à personne. Il faut dire que je suis toute seule. Hein. Mm-hmm. J'ai 2 enfants qui ne me parlent plus.
Oui.
Mais eux, il y en a un qui est parti je ne sais où, l'autre, bon, pour des histoires de famille. Mm-hmm. Je suis vraiment toute seule. Mais je ne me plains pas de ça. parce que je l'ai bien voulu, hein. Parce que je vais vous dire une chose, à un moment donné de ma vie, j'ai appris à donner mon absence à ceux qui n'ont pas compris ma présence. Parce que bien sûr, je me réfugiais avec ma bouteille d'alcool, j'étais heureuse.
Oui.
Ça me donnait une force, vous comprenez ?
Oui.
J'avais besoin de personne. Puis d'ailleurs, j'ai toujours fait le vide autour de moi. Enfin bref. Donc, 15 janvier, j'écris ça sur mon agenda. Je laisse les bouteilles, le porto, le whisky dans le bar, tout ça. Et depuis le 15 janvier, Olivier, j'ai tout vidé, les bouteilles. Je m'en suis tenue à l'eau italienne pétillante que vous connaissez,
oui,
qui est dans les grands restaurants, du jus de clémentine, du café, que j'adore le café.
Oui.
Terminé, c'est fini, fini. Je peux aller, je fais mes courses, hein, parce que je sors, je conduis. Mais au moins, ah là là, quel bonheur de pouvoir conduire et de dire, tiens, là, pendant cette matinée, je ne vais pas boire parce qu'il faut que je sorte faire mes courses. Mais là, les gendarmes peuvent m'arrêter, il n'y a plus rien. Imaginez que les gendarmes m'arrêtent, surtout dans où je vis, on me connaît. Vous imaginez pour qui je serais passé ?
Bah oui, bah vous... Vous seriez passé pour une alcoolique.
Pour une alcoolique.
Oui.
Non, mais attendez, en plus, là, déjà, j'ai bien fait parler de moi, mais alors cette fois-ci, c'était terminé l'histoire.
Mais alors, vous
j'avais
avez fait parler de vous
jeter...
Genre, quoi, vous avez fait parler de vous ?
Oh, je ne peux pas, parce que j'aurais, je ne veux pas qu'on me reconnaisse.
D'accord.
Ah, j'ai failli...
Vous avez été malade combien de temps, en fait ?
Alors, donc, je me suis arrêtée le 15 janvier... Et jusqu'il y a à peu près un mois, même pas un mois, je sortais pour aller faire mes courses, mais on aurait dit que je faisais de l'agoraphobie. Je pouvais plus voir personne, la tête me tournait, et j'allais pas trop loin, je rentrais vite chez moi, et chez moi, ça y est, j'étais bien, je me buvais un grand verre d'eau minérale, tout ça et tout, je me faisais un café, tout allait bien. Et là, depuis à peu près 3 semaines, formidable. J'ai plus de cette agoraphobie que quand je sortais. Maintenant, je sors et eh bien je peux discuter avec. Je discute avec les gens dans les supermarchés où je vais, hein, parce qu'autour de chez moi, je discute avec personne. J'ai fait le vide autour de moi. Je vis dans une jolie résidence où nous sommes peu nombreux, mais à part un voisin qui me de temps en temps me rend service quand j'ai besoin. Mais le reste, non, je ne parle à personne. Je rentre, je sors, je prends ma voiture, je m'en vais, et puis voilà.
D'accord.
Mais j'ai été fatiguée, la tête me tournait, j'ai cru, et je voulais surtout en parler à personne. D'ailleurs, j'ai plus de médecin traitant, j'ai un psychiatre, parce qu'il y a très longtemps, j'ai fait une tentative de suicide.
Il y a combien de temps?
Oh là là. J'avais 34 ans.
D'accord. Enfin, pas longtemps, il y a un moment quand même, donc.
Mais il y a un moment.
Oui. Non, mais vous me dites qu'il n'y a pas longtemps.
Il y a quand même... ah, mais si, il n'y a pas longtemps. Si, il y a longtemps. Oui. Mais enfin, bon. bon, j'ai fait une tentative. Après, bon, j'ai consulté depuis cette époque-là, quand je suis revenue dans ma région, dans la région où je suis née, j'ai consulté un psychiatre et ça n'a pas arrêté. Eh bien, je dois vous dire. Qu'en consultant, j'ai consulté un psychiatre chevronnier. Hein. Après, j'en ai eu 2 autres. Le dernier, là, part en retraite. Donc, j'en ai plus. Est-ce que, parce qu'il part à la retraite, il m'a dit, ben, c'est terminé. Et dans la région où je suis, actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il faut aller dans une grande ville et je ne veux pas y aller. Grande ville au-dessus de où j'habite. Et dans la région autour de Lyon. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que je vais me séparer de ce psychiatre. Et je dois vous dire que le psychiatre, je ne lui ai jamais dit que je buvais. Il ne s'en est jamais aperçu. J'allais chez lui pour lui dire tout le mal-être. Chaque fois que j'avais quelque chose dans ma vie qui n'allait pas, il connaît ma vie par cœur, je rabâchais sans arrêt toutes les histoires que j'ai eues, parce que j'ai été obligée de me battre sur des choses, mais... Des histoires de famille, pas possible. Parce que j'ai été adoptée, après il y a eu des histoires sur cette adoption. J'ai été adoptée à 47 ans, vous imaginez.
Oui,
après il y a eu l'enfant biologique qui est venu.
Pourquoi si tard?
Parce que ma mère ne s'était jamais mariée, et comme elle a vécu avec cette personne, eh bien, un notaire a cru bon de me faire adopter et après de me faire un patrimoine. Et puis ce patrimoine, j'ai été obligée de l'abandonner parce que le fils biologique m'a conduit dans les tribunaux jusqu'en cassation. Et j'ai tout perdu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accentué la boisson, hein, je peux vous le dire.
Oui.
Mais là, c'est pour ça que je voudrais que mon témoignage, si Florian éventuellement peut donner mon numéro de téléphone, si des gens veulent me contacter, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, parce que je me suis vue, mais je crois que j'ai même, en buvant comme ça, essayé de me bazarder, hein, mais je n'y suis pas arrivée.
Oui, mais il y a de fortes chances que... l'origine de...
Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait comme un électrochoc, parce qu'une fois, j'entends une phrase de... Je ne me rappelle plus qui c'est, Simone Veil.
Oui.
Ah oui. Il restera de toi ce que tu as donné. Vous imaginez. Vous imaginez que ce qui va rester de moi, il ne restera pas grand-chose. D'ailleurs, pas de funérailles, mes cendres où on pourra les disperser. Je veux que plus personne ne se souvienne de moi. Parce que finalement, je me suis toujours demandé ce que je faisais sur cette terre et pourquoi j'étais née. Et depuis ce jour-là, eh bien, j'ai jamais trouvé ma place dans ce monde-là.
Qu'est-ce qui fait que vous buviez comme ça, à votre avis ? J'aimerais que vous essayiez
de... La solitude.
La solitude, mais depuis le début...
La solitude et le fait de ne pas avoir connu mon père biologique. Mon père tout carrément, qui ne m'a jamais reconnu, qui était marié, qui n'a jamais eu d'enfant, qui ne m'a jamais reconnu. Et ça a été... Et même encore maintenant, hein. Et quand j'ai su qui c'était, je l'ai trouvé au cimetière il y a 10 ans, enterré avec sa femme.
Florian me demande si votre cerveau n'allait pas trop vite... à 2000 à l'heure et que l'alcool le calmait.
Bien entendu. Ah ben, bien sûr, parce que quand je arrivais chez moi, par exemple, je partais faire des courses, j'arrivais sur le coup de 10 heures, je savais que chez moi, il m'attendait ma bouteille de whisky.
Oui.
Et puis je m'achetais du bon, hein, je m'achetais pas du black and white et des choses comme ça. Hein. Je me privais pas de manger parce que je suis une épicurienne. Et puis, je me privais de rien parce que, je vous assure, impeccablement habillée.
Oui.
Je viens même, à mon âge, de changer de voiture. Et ça a même fait jaser les gens. Et vous savez pourquoi j'ai changé de voiture ?
Non.
Parce que j'ai pris une voiture en LOA et parce que j'ai vendu la mienne. Et en vendant la mienne, j'ai retouché de l'argent et j'avais besoin de cet argent. Et là, les gens croient que je roule sur l'or. Mais en réalité, personne ne connaît rien de ma vie. Moi, je vous la raconte à vous parce que, bon... Je ne pense pas qu'on va me reconnaître. Mais je roule dans une voiture neuve depuis 3 mois. Depuis que j'ai arrêté. Et oui, je me suis fait plaisir.
Oui, mais vous avez bien fait.
Il fallait bien que j'ai une compensation.
Depuis que vous ne buvez plus, en plus, vous offrez des petites choses comme ça. C'est bien.
Il fallait bien que j'ai une compensation. Mais maintenant, il va falloir que je...
Vous teniez.
Refaire ma vie, non, je ne peux pas refaire ma vie, parce qu'on ne la refait pas, sa vie. Mais il va falloir que je me reconstruise. Et vous savez quoi ? J'ai quand même l'espoir. Alors moi, je ne suis pas Internet, je n'ai pas Internet.
Oui.
Et pourtant, je suis une femme de communication. J'ai travaillé dans le téléphone et tout. Mais je ne suis pas virtuelle. J'aime le concret, moi. J'aime rencontrer les gens. Mais actuellement, je ne les rencontrais pas, les gens. Au contraire, je les fuyais. Mais, un de ces moments... Il va falloir que je reconstruise ma vie, éventuellement que je rencontre quelqu'un. Ben oui, parce que...
Oui, pourquoi pas, bien sûr.
Ah oui, non, mais un autre moment, je vous rappellerai sous mon vrai prénom.
Oui.
Et puis, j'ai une idée en tête, mais je ne veux pas le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était uniquement pour me confesser. Et me confesser à quelqu'un comme vous. Vous savez, Olivier, hier, ma télé marchait.
Oui.
Et puis, les informations sur la 2 étaient terminées, il y avait la météo. Et à un moment donné, je n'avais pas remarqué sur la 2, il y a des personnalités comme vous qui passent sur l'écran en appuyant la main certainement sur la caméra. Et c'était votre main gauche.
Oui.
Et je vous ai vu. J'ai vu vos yeux. J'ai dit, ça y est. Non,
ça y est,
j'ai vu vos
quoi
yeux.
Vous avez dit, ça y est,
j'ai
quoi
dit vos yeux. J'ai dit, il faut que j'appelle Olivier.
Ah, très bien.
Mmh. Et donc, j'ai appelé hier. Bon, Florian n'a pas pu me prendre. Mais moi, je suis une insomniaque, alors ça ne me dérange pas. Mmh. Et j'ai dit, c'est un signe, il faut que je l'appelle. Et je ne peux me confesser qu'à cet homme-là, qui a cette faculté d'écoute, cette bienveillance, parce que personne ne le sait, hein, ce que je vous ai dit.
Personne.
Maintenant, la France entière va le savoir.
Tout le monde ignore votre alcoolisme, en fait.
Tout le monde.
Incroyable, quand même.
Et vous voyez, quand j'entends, je vous entends souvent dire à des gens qui vous appellent,
oui,
il va falloir vous faire aider. Moi, j'entendais ça dans vos émissions, je me dis, mais ma pauvre fille, t'es cuite, c'est fini pour toi, terminé. Ta vie est finie. J'ai pensé à me bazarder, mais je suis même pas courageuse. Planter la voiture contre un mur, j'habite pas loin d'un grand fleuve, me jeter dans le fleuve alors que j'ai peur de l'eau, me planter contre un mur, prendre des médicaments, j'en ai pas assez. Alcool plus médicaments, ça aurait été un bon cocktail, mais j'ai pas de médicaments, j'ai juste pour dormir parce que ça fait 40 ans que je ne dors plus. Mais j'ai même pas le courage, Et là, un sursaut de vitalité m'est revenu.
Oui.
Et quand je vous entends dire « il faut vous faire aider », jamais, au grand jamais, j'aurais été consultée. Vous savez, un service d'addictologie, ah non, jamais. Jamais j'aurais voulu me montrer sous cet angle-là. Je me suis dit en moi-même, ma pauvre fille, tu n'es qu'une loque maintenant, il faut t'en sortir.
Je comprends que vous ayez pensé ça, hein, bien évidemment. Mais c'est... vous savez, et je le dis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, et qui sont encore dans l'alcoolisme, dans cette douleur qu'est l'addiction, quand on va dans quand on va dans un service d'addictologie, les gens qui y travaillent, vous savez, ils ne nous jugent pas. Ils ne jugent pas celles et ceux qui arrivent, ils sont là.
Ah non, mais moi, je ne voulais pas y aller. Moi, j'ai un fort caractère, d'ailleurs.
Oui,
il y a 4-5 ans, j'ai eu un grand chagrin d'amour. Je pense que cette personne, peut-être, s'en était même pas aperçue. Mais il m'a quitté. On est resté très peu de temps ensemble. C'était pendant le début du Covid.
Oui.
Et il m'a dit, tu as un trop fort caractère. Je ne peux pas vivre avec une femme comme ça.
D'accord.
Parce que j'ai un fort caractère, attention. Hein. Et je dois vous dire que si j'en arrive là aujourd'hui à ne plus boire une goutte d'alcool... C'est qu'il m'a fallu je dis que j'ai pas de courage, mais il m'en a fallu du courage.
Ah, mais je n'en doute pas, Victoria.
Parce que c'est très dur. Hein.
Et bien évidemment, et vous avez fait preuve vraiment de beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de volonté, et ça, je vous en félicite. Mais allez-y.
Oui. Pardon. Alors, il y a des moments, je me suis tellement dévalorisée que j'ai dit, oh, tiens, je vais appeler Olivier. Comme ça, peut-être lui va me dire. Oui, vous êtes une femme courageuse.
Mais vous l'êtes, bien sûr. Je pense que toutes celles et ceux qui vous écoutent ce soir notent le courage dont vous avez fait preuve pour vous sortir d'une addiction aussi longue, hein, Victoria. Donc, bravo. Et puis, la prochaine fois, vous me rappellerez.
Et vous savez qu'à mon âge, c'est pas facile de se dévoiler comme je viens de le faire. Hein.
Mmh, bien sûr, je le comprends.
Hein?